Lady Sidley par Edmond Jaloux. Un portrait accroché au mur, voilà tout ce qui me reste de Lady Sidley. Voir sur une toile peinte un être que l'on a connu, qui a eu sa forme et sa réalité, c'est une chose étrange et puérile. On a envie de se prendre la tête à deux mains et de se dire « Suis-je réel ou bien si j'appartiens aussi à un monde de fantômes ?» Mais l'on comprend enfin que l'on est vivant pour un peu de temps encore, et l'on considère de nouveau avec stupeur ce qui demeure uniquement d'une femme qui a parlé, qui a aimé, qui a souffert, en qui le monde entier a déposé son image et dans la pensée de qui on a eu une existence particulière, un peu différente de celle que l'on se connaît. D'une femme, enfin, qui a cédé un jour aux sournoises attaques de la parque et qui, se reculant brusquement hors de nos frontières humaines, n'a laissé aux yeux que cette insensible et durable survie. Elle est là, telle que je l'ai connue. J'ai un élancement au cœur en la regardant. Il me semble qu'elle va se lever, sortir du cadre, venir à moi. Mais non, son sourire demeure énigmatique. Elle regarde toujours devant elle, et de ce même regard fixe, un peu hagard, un peu étrange, qu'elle avait déjà dans son enfance. Des boucles d'un blond pâle encadrent ses joues mates. D'autres cheveux débordent de son vaste chapeau dont les bords de paille retombent pour ombrager son front. Sa bouche est petite, fraîche. La lèvre inférieure dépasse légèrement l'autre, et son renflement est fendu comme une pêche, d'une ride demi-circulaire. Elle s'appuie sur un beau bras rond et nu, veiné d'azur. Je contemple sans fin ses yeux sombres et bleus, presque noirs, et derrière elle, dans la brume qui naît, des ramures s'étagent et frissonnent, légères et bleuâtres, sous les nuages d'un ciel d'automne qui s'incline vers une grande plaine. Oui, son charme, son élégance, sa grâce sont là. Et pourtant, je ne sais quoi y manque. Elle avait bien ce geste familier pour soutenir sa tête délicatement penchée sur l'épaule. Mais combien en avait-elle d'autres, aussi délicieux, aussi aisés? Son regard prenait cette expression, s'imprégnait bien de rêves, d'hallucinations, de défis, mais que de mouvements de tendresse, de fierté, de crainte, de supplication, de révolte, y passait que nul ne saura. Cette bouche a eu cette moue de dédain moqueur, ce secret, cette réticence, mais plus souvent encore, de l'abandon, de la douceur, de la volupté. Je crois maintenant avoir aimé Arabella Sidley dès que j'appris à aimer. Peut-être même lui dois-je cette grande révélation, bien qu'elle ne fût alors qu'une petite fille aux cheveux répandus pour qui le monde était plein de promesses. Nous vivions tout près l'un de l'autre, dans un paradis terrestre au bord de la mer, d'une mer bleue comme celle où s'ébattent les sirènes. La terre, si jeune alors, avait la fécondité nonchalante d'un beau corps, un soleil qui ne semblait venir qu'à travers une cloison transparente de feuilles de rose, échauffait doucement les vallons aux vieilles églises moussues. Les clochers des fuchsias sonnaient pour nous les heures vives, légères, irremplaçables, les heures de la jeunesse perdue. Elles sonnèrent bientôt les heures des séparations intermittentes. Je ne revis plus Arabella qu'aux vacances. Les vacances. Ce mot me met dans l'âme une étrange et funèbre gaieté, une douloureuse nostalgie. Les vacances, c'était de longues journées, avec un soleil plus chaud, des fleurs plus mystérieuses, des papillons plus nombreux que ceux des années qui les précèdent et qui les suivent. Nous avancions comme en pays inconnu, dans ce grand espace de temps heureux et libre, qui semble ne devoir jamais finir, où l'âme joue mieux encore que le corps, joue avec les rayons, les brises, les eaux. Toutes les secrètes puissances de la douce terre maternelle, mais joue aussi avec les sentiments, avec les premiers désirs qui troublent notre âme, les premières espérances qu'elle forme, les premières émotions qui l'agitent, et joue surtout avec l'amour, comme un enfant innocent et nu pourrait le faire avec un lion qui s'amuse de lui avant de le renverser d'un seul coup de patte. Un soir, nous trouva tous deux étendus sur un tapis de mousse, derrière un rideau de fougères. Septembre déclinait, mais dans sa langueur, on sentait encore la force oppressive de l'été. Derrière les arbres, la mer poussait ses vagues de jade. Une grande mouette blanche, croilante et paresseuse, suivait le dessin de la plage. Nous allions nous quitter de nouveau, Arabella et moi. Je la regardais longuement. Elle était étendue sur la mousse, les genoux relevés, les bras repliés en arrière. Il n'y avait pas de défi dans ses yeux, mais une naïve tendresse. Pas de dédain sur ses lèvres, mais une douce et familière malice. Elle regardait voler la mouette et aussi, tout autour d'elle, je ne sais quoi de soumis, d'ardent, de capricieux, d'abandonné, une griserie inconnue. Des nuages noirs découpaient leur écran sur le vaste ciel. Le soleil s'enfonçait derrière eux. Il n'était plus visible. mais ses rayons jaillissaient de l'orbe disparu et traversaient le ciel. C'étaient de longs raies d'argent, éblouissants, vibrants, limités. L'un d'eux sortait d'une déchirure des nues, comme d'un trou, son bras de lumière. « Absente ou présente, vous rayonnerez toujours ainsi pour moi, » dis-je à Arabella. « Il n'y aura jamais en moi que le sentiment que j'éprouve aujourd'hui. Ce sentiment, vous savez son nom ?»« Je le sais, » répondit-elle, d'une voix grave en hochant la tête. « Nous demeurerons toujours présents l'un pour l'autre, Harry. Ce sentiment que je ne veux pas nommer non plus me lie à vous à jamais. » La mouette planait. Les rayons du soleil perdaient de leur force et de leur éclat. Un grand apaisement tombait du ciel vaste, et je laissais m'envahir une joie solennelle, émue, presque religieuse, une joie sans exubérance et sans secousse, et que je sentais en moi pour toujours. La destinée me força à voyager. Je quittai mon pays et l'amour dans l'âme, mais j'étais fier et satisfait de la promesse d'Arabella. Je fus longtemps absent. Je connus d'autres villes, d'autres mœurs, d'autres peuples. Je vis bien des visages de femmes. Aucun ne fit oublier cette figure altière et soucieuse que j'avais contemplée si souvent dans la vie, et plus encore en moi-même, dans cette secrète chambre de la vie intime, qui est notre plus réel domaine, et que rien ne peut nous dérober, hormis peut-être la ravisseuse de toutes choses. De pays en pays, de mer en mer, je retrouvais au fond de ma pensée ses yeux d'un bleu presque noir, et ses longues boucles tombantes, et cette expression d'attente et de sérénité qui passa sur ses traits délicats, certains soirs, devant la mer. Enfin, je revins. Je me sentais tout près du bonheur. Un soir d'automne, je refis à pied le chemin qui me ramenait et que j'avais souvent suivi avec Arabella. Derrière les haies, je voyais les prairies grasses, les vergers pesants. Les collines boisées se levaient devant moi. L'automne les rougissait. J'admirais les teintes de cuir, d'étoffe orientale, d'écarlate qui les vêtaient. Ici et là, des figures d'or éclataient dans ces entrelacs de pourpre. La douceur de la saison, la beauté du pays natal me ravissait jusqu'aux larmes. Le ciel bas se voilait de rose et de gris. Je respirais dans l'air l'odeur de la mer et celle des fruits mûrs, des herbes mouillées et des dernières roses qui suspendaient aux espaliers leurs fleurs alourdies d'un jaune qui se rongeait sur les bords, d'un blanc qui se dorait à peine ou d'un rouge qui devenait sombre comme le sang caillé. Ce fut ainsi que je rentrais chez moi, que j'y retrouvais les visages familiers, les meubles accueillants, tout ce qui me disait « Comme vous êtes longtemps resté loin d'ici, et comme tout cela est vite oublié. » Je demandai aussitôt des nouvelles d'Arabella, et j'appris la trahison, le mariage de mon amie. Elle avait épousé Lord Sidley. On m'en avait envoyé la nouvelle, au-delà des mers, mais la lettre s'était perdue à ma poursuite. Pourquoi l'avait-elle épousée? Je ne l'ai pas su. Croyait-elle m'avoir oublié? Eut-elle un caprice d'enfant pour cet homme élégant, austère et plus âgé qu'elle? Supposait-elle que je ne reviendrais plus? Obéit-elle à la vanité et au désir du luxe? Je ne le sais pas, je ne le saurai jamais. Et la vie se noircit d'un voile. Ce beau pays natal, que j'avais revu si volontiers, me parut aussi morne, aussi effrayant que la face d'un cadavre, et la plus misérable existence commença dès lors pour moi. Des années passèrent sans que je revisse Lady Sidley, mais je n'oubliais pas. Je vivais dans la solitude la plus triste, m'occupant de fastidieux travaux d'érudition. Je me dis enfin que la barrière qui la séparait de moi était bien peu de chose, et je cherchais à la revoir. Il m'était facile de fréquenter le monde où elle évoluait. Je courus les salons. Un soir de bal, je la rencontrai. Elle se tenait immobile près d'une fenêtre, les yeux fixes, tels qu'elle représentait sur cette toile. Ses épaules sortaient nues de sa robe, et cela me troubla, car je ne les avais jamais vues. Elle était plus belle encore qu'avant son mariage, mais une sorte d'amertume, de désillusion, d'ironie se peignait sur ce visage aux traits fins. J'étais si ému en m'approchant d'elle, que j'entendais les coups sourds de mon cœur et que je crus m'évanouir. En passant près d'une glace, je me regardais, j'étais livide et j'eus peur de moi. Lady Sidley ne m'aperçut que lorsque je fus devant elle. Elle eut un sursaut et son sang quitta ses joues. Je ne disais rien et je la contemplais en silence. Enfin, avec un effort visible, elle murmura « Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce pour me faire des reproches? Est-ce pour me dire que vous m'avez pardonné ?» Je hochai la tête sans répondre. « Oh Dieu, » fit-elle, « si vous avez pitié de moi, répondez. Êtes-vous heureuse, Arabella ?» lui demandai-je. Elle secoua avec irritation les boucles qui tombaient le long de ses tempes. « Qui parle de bonheur ici-bas ? » Elle me tendit la main. « Adieu, Harry. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de ne pas chercher à me revoir. ne me poursuivez pas, n'entrez pas dans ma vie. Si je suis coupable, je suis puni. Si je suis innocente, c'est pire. Abandonnez-moi à mon destin, oubliez-moi. » Elle eut un rire atroce. « Oh, je vous dis cela comme si vous ne m'aviez pas oublié déjà depuis longtemps, comme si vous n'aviez pas cessé de m'aimer. » Il y avait une supplication si intense dans ses yeux que je fermai les miens, pour ne pas lui laisser voir ma réponse, et ce fut moi qui quittai le salon. Je rentrai dans ma solitude, sans cesser d'y être poursuivi par ce visage tourmenté. Était-ce le remords, la peur, l'indifférence qui éloignait ainsi de moi Lady Sidley? Pourquoi ces questions, cet air suppliant, cette amertume? Et je sentis de jour en jour que je ne pouvais pas me passer d'Arabella, que pas une heure je n'avais vraiment admis que je pusse ne plus la revoir, que toujours j'avais gardé au fond de moi l'espérance enracinée des moments où je la retrouverais. Et dans mon abandon, mon désespoir, l'assurance qu'elle était perdue pour moi, se tenait cachée une immense espérance, la certitude joyeuse, absolue, qu'elle me reviendrait, qu'elle m'aimerait encore, que rien ne trancherait les liens mystérieux, infrangibles et subtils, qui nous réunissait secrètement. Quand le printemps revint, Lady Sidley partit pour le château que son mari possédait dans une contrée inculte et sauvage. Je résolus de l'y poursuivre. Je parcourus le comté. Un cottage était à vendre, non loin de l'altière demeure des Sidley. Je m'y installai aussitôt. J'éprouvais déjà un léger bonheur à respirer le même air que mon amie. Par des gens du pays, je me renseignais sur elle, sur l'emploi de ses journées. Elle sortait tous les après-midi à cheval, seule. Son mari s'occupait très peu d'elle et la laissait très libre. Elle allait sans fin, sous le ciel gris, s'épuisant dans une course éperdue comme pour oublier quelque chose qui était inoubliable. L'étrange et douloureux pays, à l'âme concentrée et fiévreuse, au firmament toujours voilé et bas. C'était une série de hauts plateaux montagneux qui s'étendaient au-dessus des vallées marécageuses que l'on ne voyait jamais à cause des brouillards. Si bien que l'on se croyait isolé du reste du monde. Aucun arbre n'y poussait, un vent sauvage y était continuel. Des champs entiers de bruyère y déroulaient leur solitude monotone. Les mousses dorées couvraient le sol. De grands rochers rouges coupaient ces landes désertes d'où s'élevaient des nuées d'oiseaux. De loin en loin se tenait cachée une ferme dans un repli de terrain. Nulle part on n'est si près de la vie sauvage. Nulle part on ne se sent si loin de la civilisation et du monde social. Quand je fus familiarisé avec cette contrée, je commençais à la parcourir à cheval. De temps en temps, je croisais quelques paysans qui traversaient les bruyères, ou bien j'effarouchais des banneaux dont le vol partait entre les jambes de ma monture. Je chevauchais longtemps sans rencontrer Lady Sidley, et je désespérais déjà, lorsqu'un jour d'été singulièrement brûlant et lourd, je l'aperçus qui cheminait lentement. Elle montait un grand cheval pommelé et toute vêtue de noir, avec un chapeau d'où pendait un voile noir. Elle se détachait sur l'horizon. Je mis ma bête au trot. Elle entendit le bruit cadencé des sabots, tourna la tête et me reconnut. Elle rendit aussitôt la main et son cheval, après avoir contourné une haie de fougères, déboucha sur une plaine où il se mit au galop. Je ne l'avais pas attendu pour y être. Un instinct furieux, forcené, une sorte de désir sauvage me harcelait, et je criais pour exciter ma bête que j'éprenais, tandis que Lady Sidley filait à travers la plaine où le vent excité courait avec nous. Cependant, je prenais de l'avance. Lorsqu'à une descente, mon cheval glissa sur une roche et nous roulâmes tous deux sur le sol. Lady Sidley se retourna. Il me sembla qu'une lueur heureuse éclaira son visage et elle n'interrompit pas sa fuite. Je restai à terre, moins étourdi par la violence de la chute que par celle de ma déception. J'étais plus foudroyé encore qu'à l'annonce du mariage de mon ami. Quoi ? J'étais tombé sous ses yeux, pendant une course folle. Je pouvais être tué ou blessé grièvement, et elle m'abandonnait ainsi, seule dans la lande, au tombé de la nuit, sans même ce mouvement de pitié que l'on a pour un indifférent, pour un chien qui se blesse. Je demeurai longtemps immobile. Enfin je me levai, tout contusionné. Je remontai péniblement sur mon cheval, qui broutait paisiblement non loin de moi, et je revins vers ma demeure. Je ne pus me décider à me coucher. Je restais toute la nuit étendu sur un divan. Je passais là quelques-unes des plus tristes heures de ma vie. Tout espoir m'abandonnait, je me sentais perdu. Il n'y avait plus rien dans le cœur de Lady Sidley des sentiments qui y étaient demeurés longtemps. L'orgueil, l'amertume, peut-être le désespoir, en avaient tout chassé. Mais alors pourquoi naguère cet air d'imploration, cette fièvre à ma vue, cette anxiété? Je sentais que Lady Sidley, me sachant maintenant si voisin d'elle, ne s'aventurerait plus loin de son château, et de lassitude, je me décidai à fuir. Pourtant, je n'eus pas la force de quitter aussi vite un pays où j'étais près d'elle, et j'atermoyais une semaine encore. Un soir, je m'étais assis devant ma porte, plus malheureux que jamais. Mon cottage était à côté un repli de terrain. Il fallait, pour le voir, venir tout au bord du plateau qui le surplombait. Le ciel était livide et chargé de nuages. J'entendais, comme toujours, le vent siffler au-dessus de ma tête. Soudain, je levai les yeux et je vis à la limite du plateau se dresser un groupe équestre. Il se détachait en plein ciel et il me parut immense. Le cheval pommelé se tenait immobile, supportant cette haute figure sombre qui me regardait. Il me sembla qu'un rideau se déchirait devant moi. J'eus une impression magnifique de délivrance. Je me levai en chancelant. Le groupe immobile restait toujours comme figé au-dessus de moi. Je ne pus supporter mon émotion, et devant cette apparition prodigieuse, je tombai à genoux sur le rocher et j'éclatai en sanglots. Quand je relevai la tête, Lady Sidley avait disparu, mais en partant elle me laissait l'impression d'une vie nouvelle. Ainsi donc, elle m'avait cherché. L'espérance revenait dans mon cœur à gros bouillons, comme l'eau entre dans une coque qui a touché un écueil. J'étais inondé de joie. Cette nuit encore, je ne pus dormir. Je courus dans la lande, dans le vent, sans chapeau, parlant tout seul. Ma maison était trop petite, trop étroite pour contenir mon exaltation. Il me semblait que j'enfermais assez de force pour remuer un monde, assez d'ardeur pour embrasser des foules, assez de bonheur pour le répandre autour de moi comme une bénédiction. Je finis cette nuit couché dans une touffe de fougères, serrant la terre contre mon cœur, pris d'un amour subi, animal et païen, pour cette vieille terre toujours jeune et pour tout ce qu'elle porte. Le lendemain, je remontai à cheval et je parcourus de nouveau les plateaux rocheux, les landes, les vastes étendues de bruyères. Mon œil fouillait sans cesse les horizons, y cherchant une silhouette connue. Elle reparut enfin, je poussai ma bête vers elle. À ma vue, elle éprona la sienne, mais elle fuit avec moins d'énergie. Elle paraissait certaine à l'avance de l'issue de la course. Je filai comme le vent. Mon cheval emballé dépassa Lady Sidley. Il me fallut tirer sur le mort pour le ramener en arrière, et je fonçai sur l'Amazone. Elle tenta une oblique pour m'échapper. Je saisis son cheval par la bride, elle le cravacha avec fureur, il se cabra, et j'avais devant moi la grande bête pommelée reculant et battant l'air de ses pattes, les yeux sanglants et les naseaux couverts d'écume. Je ne lâchai pas prise, et dressé sur mes étriers, retenant d'une main ma monture qui s'ébrouait, de l'autre, je maintins celle de Lady Sidley. Elle me regardait avec colère et avec haine, du défi aux yeux, plus pâle que jamais. « Que me voulez-vous, Harry? Pourquoi me poursuivez-vous? Ne vous ai-je pas supplié de me laisser en repos? Vous ne serez en repos, lui dis-je, que lorsque j'y serai moi-même. Ah, vous êtes impitoyable! S'écria-t-elle. Alors, d'une voix basse, sifflante, entrecoupée, je lui parlais du passé. Je lui rappelais nos étés, ce soir, si beaux devant la mer, ses promesses. Elle m'écoutait distraitement, cependant que son cheval, avec un de ses sabots, creusait la terre friable. Je la surveillais pour prévenir toute tentative de fuite. Lady Sidley baissa la tête. « Croyez-vous, fit-elle, qu'il faille tant d'éloquence pour me convaincre? N'avez-vous donc pas compris que je m'éloigne de vous, parce que je savais bien que si je vous retrouvais, j'étais perdu? Tous les hommes sont des aveugles. Ils ne voyaient même pas que, tandis que je le fuyais, j'étais à lui. » Je la regardais avec surprise, avec ivresse, mais avec un sentiment de bonheur si brutal qu'il m'écrasait et que ma joie s'effaçait dans un foudroiement presque douloureux. Ce fut ce même jour qu'elle entra dans le cottage que je voulais quitter par désespoir de ne jamais l'y conduire. Quand la porte fut refermée, nous nous assîmes devant la cheminée vide. Un jour verdâtre entrait par un vitrail et éclairait les poutres du plafond et les meubles vermoulus. Alors Lady Sidley m'enlaça tendrement et mit sa tête sur mon cœur. « Voilà la place, me dit-elle, que j'ai ambitionnée si longtemps. » Je l'embrassai à mon tour, elle s'arracha à mon étreinte comme une furie et éclata en sanglots. L'instant d'après, elle était de nouveau dans mes bras. « Ah, Dieu sait, fit-elle, ce que j'ai lutté et souffert. On échappa à la fatalité. »« Ni au bonheur, lui dis-je, en fermant sa bouche avec la mienne. » Pendant 2 mois, Lady Sidley vint chaque jour passer l'après-midi avec moi. J'entendais le grand trot de son cheval. Elle sautait à terre devant la porte, et nous entrions ensemble. Ce furent 2 mois de plénitude et de folie. Nous vivions l'un pour l'autre comme 2 sauvages dans une île déserte. Le monde était fini pour nous. Ces plateaux rocheux et leurs brouillards nous séparaient de tout l'univers. Il n'y avait pour nous ni avenir ni passé, mais un présent inouï, une démence qui nous gorgeait de joie. La surprise, L'inattendu d'une telle situation y ajoutait encore. Nous gardions l'impression d'un miracle durable, d'un prodige continu. Jamais je n'eus un tel sentiment de liberté, de puissance humaine. Jamais il ne me parut à ce point que l'homme peut tout, que la vie entière est magnifique et divine. L'amour de Lady Sidley avait l'opulence d'une forêt vierge. Elle m'affolait et me brisait. Et quand cette femme m'avait quitté, je restais dans une sorte de prostration extasiée, d'hébétude poétique, enfermée en moi-même, à demi hallucinée par le rêve d'un bonheur si intense que je doutais de sa réalité. Cependant la pluie augmentait. Les bruyères devenaient immensément roses sur les plateaux. Le vent se faisait plus froid. Les lichens gagnaient du terrain. Des vols d'oiseaux migrateurs traversaient le ciel noir. C'était l'automne qui arrivait et qui apportait la conclusion du songe où je me perdais. Lady Sidley m'annonça avec un frisson de détresse qu'elle partait, que son mari l'entraînait avec lui, qu'ils allaient passer 2 mois chez des parents avant de rentrer à Londres. Nous nous quittâmes avec désespoir. Hélas, que notre désespoir eût été plus grand encore si nous avions pu prévoir ce qui allait arriver. Et je demeurai seul, avec le froid, avec le vent, la pluie torrentielle, infiniment seul dans ce pays perdu, mais grisé de souvenirs, et dans tous les coins de ma misérable demeure, trouvant quelque trésor qui illuminait mes journées. Je revins à Londres, vers le temps du retour de Lady Sidley. Elle m'avait promis de m'écrire et de me voir. Je ne reçus rien. Elle ne parut pas. J'attendis en vain. J'attendis avec terreur, avec désolation, comme un naufragé sur une barque ballottée par les vagues attend le navire qui le sauvera. J'allai dans les maisons où je croyais la rencontrer. Personne ne l'avait vue. Je lui écrivis, pas de réponse. Je me présentai à son hôtel. On me répondit que Lady Sidley ne recevait personne. Avait-elle été reprise par sa défiance? Me fuyait-elle de nouveau? Ou bien son mari la séquestrait-il? 1 mois passa ainsi. J'étais à bout de souffrance et d'anxiété. Et tout à coup, dans le monde, un bruit circula, un bruit inquiétant, étrange. On disait que Lady Sidley avait pris froid, une nuit d'automne, dans ce château où son mari l'avait conduite. On parlait d'un mal mystérieux, terrible, qui déroutait la sagacité des médecins. Cette rumeur accrut follement mon angoisse. Une nuit, j'étais assis devant mon feu, je pensais à Lady Sidley, et je me demandais à quelle extrémité allait me conduire mon incertitude et ma douleur. Il pleuvait fort au dehors, et la nuit était gémissante et épaisse. Les flammes me faisaient une compagnie, et je voyais distinctement en elles des croupes bondissantes de chevaux, des bras ouverts pour étreindre et des chevelures dénouées. Je me souviens que j'entendis sonner 2 heures à une horloge du voisinage. J'allais éteindre ma lampe quand on frappa à ma porte. Qui donc pouvait me déranger à cette heure-ci? Je me levai en maugréant et comme je m'avançais, on frappa plus fort. Je tirai le verrou et dans le corridor, une svelte forme noire m'apparut. Je reculai sans la reconnaître. Elle souleva le voile mouillé qui descendait sur son front. Je poussai un cri. C'était Lady Sidley. Elle entra lentement dans le salon. « Je suis gelée, » dit-elle, et elle s'assit devant le feu. « Vous ne m'attendiez pas, » dit-elle encore. « Je me suis échappée pour venir. Je voulais vous revoir une fois encore. Vous m'avez attendu souvent, mon pauvre ami, mais malgré tout, je sais bien que vous ne m'avez jamais soupçonné d'avoir pu changer à votre égard. » Je n'osais pas lui faire de reproches, ni lui poser une question. Il me semblait de nouveau appartenir à un autre monde, à celui où les miracles se réalisent. Je remarquais cependant la pâleur d'Arabella, l'amaigrissement de ses traits, l'éclat brûlant de ses yeux. Elle me parut plus grave et comme plus légère. Son aspect avait pris quelque chose d'auguste, une étrange sérénité. Elle était à demi déjà hors de la vie, et j'avais l'impression que tout ce qu'elle avait à me dire n'était plus que l'essentiel. Nous nous tûmes longtemps. Lady Sidley penchait la tête vers les flammes. « Dieu m'est témoin, me dit-elle, que je n'ai jamais aimé que vous. Je ne prononce de telles paroles que parce que l'heure de les dire a sonné. Si mon âme, si mon cœur ont appartenu à un autre être, c'est à vous. Maintenant il se fait tard, et l'amour humain est déjà loin de moi. Vous garderez la certitude d'avoir été mon seul amour. Mais je n'ai pas la même foi en vous. Je vous jure, m'écriai-je avec feu. Ne jurez pas, Harry. Je crois qu'il en a été ainsi jusqu'à présent. Mais comment oseriez-vous engager l'avenir? D'ailleurs, qu'importe. Les dernières illusions sont tenaces, et celle-là m'est précieuse. Hélas, il vous reste de beaux jours à vivre, et j'ai peur de vous les envier. Je vois bien maintenant que nous sommes uniquement des enfants de la terre. Ce que nous appelons divin n'est que l'amour féroce et dissimulé de cette vie-ci que nous voulons perpétuer éternellement. ses paroles m'angoissaient. Je voulus rompre leur enchantement mystérieux. Je m'avançai vers Arabella pour la serrer dans mes bras. « Ne vous approchez pas de moi, » me dit-elle. « Je ne vous appartiens plus. »« J'appartiens à quelqu'un de plus grand et de plus terrible que nous tous. » Elle se leva avec un grand frisson et, rejetant son voile, avec une paire de ciseaux qu'elle tira de son sac, elle coupa deux des boucles si blondes qui tombaient le long de ses joues mates. Elle les posa sur la table et me regarda longuement. « Ah, » me dit-elle, « c'est une effroyable fatalité pour une femme qui aime. Qu'allais-je vous reprocher tout à l'heure ? Quoi qu'il arrive, c'est moi qui oublierai la première. » Je pris sa main, si émue et si bouleversée que je ne savais plus si je rêvais ou si je vivais. Et comme je mettais un baiser sur cette longue paume glacée, deux larmes tombèrent de mes yeux. « Merci, » me dit-elle alors. Et elle marcha vers la porte comme une somnambule. Elle se retourna, et je vis ses prunelles d'un bleu sombre une dernière fois. Toute sa vie s'y concentrait, tout son amour, tout son désespoir. Ce fut un regard tel qu'il entra en moi comme un éclair, et je demeurai immobile, interdit, presque aveuglé par ses yeux qui, à force d'intensité, n'avaient plus rien d'humain. Quand je revins à moi, j'étais seul. Lady Sidley était partie. Je n'entendis aucune voiture dans la rue. J'ouvris la fenêtre, tout était désert. La pluie torrentielle tombait toujours. Je revins m'asseoir près de mon feu qui s'éteignait. Je passai la main sur mon front et je me demandais si j'avais fait un rêve, si Lady Sidley était venue ou si son ombre m'avait visité, mais pourtant je voyais ses boucles d'or pâle, là, sur ma table, cette grappe légère de cheveux. Je les pris dans mes doigts pour croire en eux, pour les baiser, les respirer. Oui, il me semblait que tout le parfum divin, charmant, inoubliable de Lady Sidley montait vers moi et me grisait. J'étais si brisé de fatigue et d'émotion que le lendemain je ne sortis pas, mais le jour suivant, décidé malgré tout à revoir mon ami, je me dirigeai vers son hôtel, et sur la grande porte, je vis, accroché, un écusson de femme. Je sus ainsi que tout était consommé. J'appris ensuite que Lady Sidley avait agonisé pendant toute la semaine, et qu'elle n'avait plus quitté son lit, et que depuis l'avant-veille au matin, elle n'avait plus prononcé une parole. Ce merci qu'elle avait laissé tomber sur moi, était-ce donc le dernier mot sorti de sa bouche? Mais qui l'avait prononcé? Elle-même ou son ombre? Que m'importait? Ma vie était brisée avec le cœur de Lady Sidley. Je devins la pantelante victime, secouée par tous les démons de l'horreur et de la démence, et le rêve de ce monde se transforma pour moi en un lourd et hideux cauchemar. Un an après cette mort, dont rien n'avait pu me consoler, et le jour même du douloureux anniversaire, je reçus un mot de Lord Sidley, me priant de passer à son hôtel. Je ne l'avais jamais vu, je trouvais un homme âgé, rogue, hautain et maussade. Il voulait me donner, me dit-il, un tableau que Lady Sidley l'avait prié de me remettre à cette époque. Elle l'avait fait peindre pendant les premiers temps de sa maladie, prévoyant sans doute ce qui allait arriver. Mais rien de son affaiblissement n'était encore visible sur ce portrait, où Lady Sidley montrait toute la fraîcheur de sa merveilleuse jeunesse. Je tremblais de laisser voir à Lord Sidley mon émotion. Je le remerciais. « Ne me remerciez pas, » me dit-il avec morgue. « Je ne suis pour rien là-dedans. C'est Lady Sidley, et Lady Sidley seule qui vous l'offre. » Je me retirai donc. Il est là, pendu au mur de cette chambre, où ma vie s'écoule, sans cesse un bouquet de bruyère rose, et lève vers lui son parfum rustique. Qu'ils sont loin, les plateaux rocheux, les landes incultes, les champs venteux, où les lichens poussaient, et où mon cheval poursuivait son cheval pommelé. Je fixe ses yeux d'un bleu sombre, presque noir, pour tâcher d'y surprendre cet éclair qui m'éblouit, la nuit de notre dernière entrevue. J'interroge cette bouche renflée, comme s'il allait me répondre. M'avait-elle oublié, comme elle en avait la douloureuse certitude? Jusqu'à l'insanité, les mêmes pensées me harcèlent. Se peut-il qu'un homme qui a tant aimé un être ne puisse rien conserver de ses traits qu'un étranger a rendu réel sur une toile peinte? Se peut-il que des couleurs soient plus durables qu'une chair qui a vécu? Et cependant, qui rendra maintenant, sinon mes souvenirs? Ces regards de tendresse, de fierté, de crainte, de supplication, de révolte, ces sourires où il y avait de l'abandon, de la douceur, de la volupté. La promesse que Lady Sidley n'a pas voulu que je lui fasse, je l'ai tenue. Il ne demeure de mon ami que cette vaine apparence et la vie qu'elle a en moi. Elle est tout entière dans mon cœur depuis son enfance, jusqu'au soir devant la mer, depuis notre rencontre dans un salon jusqu'à ses dernières paroles. Je suis son musée vivant. Son portrait accroché à tous les murs de ma pensée, c'est là qu'elle se montre encore, ardente, capricieuse, fidèle, tendre, fuyante, obstinée, révoltée, hautaine, soumise, méchante, telle enfin qu'elle a vécu, telle qu'elle a aimé. Mais un jour viendra où son image peinte frappera seule les yeux des indifférents. Son étrange éphémère survie s'effacera à son tour, et c'est qu'alors j'appartiendrai moi aussi à quelqu'un de plus grand et de plus terrible que nous tous. Ainsi s'achève Lady Sidley d'Edmond Jalloux.